Le Bouddha temporel et moi-même.
Atemporel, oui. Le Bouddha primordial, non, c'est ça.
Le Bouddha fondamental et le Bouddha racine, dire que Nichiren est Bouddha fondamental, c'est couper de la traduction.
Tradition.
Tradition. Nichiren Daishonin-ji, Hongutsu égale simple mortel, c'est la racine de l'éveil qui est en nous tous. Le sutra du lotus est un sutra de réconciliation.
Oui, c'est ça. Bon, donc, c'est la page où, qui commence par « Pendant 50 ans » en haut. Et c'était le passage « Ainsi le Bouddha Tao surgit de la terre pour certifier tout ce que vous avez exposé est la vérité. Et les Bouddhas ne sont que... qui sont les émanations du Bouddha primordial ?» Donc voilà, avec Bouddha primordial, on avait vu Bouddha temporel, Bouddha originel, enfin bon... toute cette notion avec le problème de la Nichiren Shoshu qui pose le principe, on sait qu'il est faux, puisque même Nikko Shonin, donc le fondateur de la Nichiren Shoshu, ne reconnaissait pas du tout Nichiren Daishonin comme un Bouddha primordial ou un Bouddha originel. Hein? Ça, c'est très important. Dire que là, le fait de mettre Nichiren comme le remplaçant de Shakyamuni, c'est ça hein, ce que ça veut dire, il se coupe de la tradition. C'est pour ça que dans toutes les méditations qu'on fait, il y a toujours le Bouddha temporel Shakyamuni et Nichiren Daishonin, donc il y a toujours les deux. Alors la suite... Le Sutra du Lotus contient deux principes importants, dont les écoles Kusha, Jōjitsu, Ritsu, Otsu et Sunron ne connaissent rien, pas même le nom. Par contre, les écoles Kegon et Shingon se sont sournoisement emparées de ces principes pour en faire le cœur de leur propre enseignement. Le principe d'Ichinen Sanzen ne se trouve que dans l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus, caché dans les profondeurs du chapitre Juryo, le 16e, les bodhisattvas Nagarjuna et Vasubandhu en avaient connaissance, mais ne le révélèrent pas. Seul le grand maître Chi-Di l'adopta et le conserva sans cesse dans l'esprit. Chi, c'est Tendai. Hein. Le principe d'Ichinen Sanzen découle de l'implication réciproque des 10 mondes-états. Mais les écoles Osso et Sunron ne parlent que de 8 états, ignorant qu'il y en a 10, et à plus forte raison, ignorant le principe de leur implication réciproque. On va revenir là-dessus. Les enseignements des écoles Kusha, Jōjitsu et Ritsu s'appuient sur les sutras Agama. Ils ne prennent en compte que les 6 mondes-états, les conditions de vie les plus basses, ignorant tout des 4 autres mondes-états. Ils affirment qu'il n'y a qu'un seul Bouddha dans les 10 directions et ne dévoilent pas qu'il existe un Bouddha pour chaque direction. Ils ne font évidemment pas la moindre allusion au principe selon lequel tous les êtres sensitifs possèdent l'état de Bouddha. Ils refusent d'admettre que même une seule personne puisse posséder l'état de Bouddha. Malgré cela, on entend parfois des adeptes des écoles Ritsu et Jōjitsu déclarer qu'il y a des Bouddhas dans chacune des 10 directions et que tous les êtres possèdent l'état de Bouddha. Par exemple, Amida, c'est l'Ouest. Malgré cela, on n'entend pas... La raison est que, quelque temps après la disparition du Bouddha, les tenants de ces écoles se sont appropriés ces principes du bouddhisme Mahayana et les ont incorporés dans les enseignements de leur propre école. De même, avant l'apparition du bouddhisme, les adeptes du brahmanisme n'étaient pas si précis dans leur propre théorie. Mais par la suite, en écoutant et en observant le bouddhisme, ils prirent conscience des défauts de leur propre doctrine. Ils conçurent alors l'idée ingénieuse de s'approprier les enseignements bouddhiques pour les incorporer aux principes de leur propre école, ce qui leur valut de tomber encore plus profondément dans l'erreur. Ce sont là des exemples d'enseignements erronés, connus sous le nom de Fubukyo ou Gaku Bupojo. Bon, ça, je sais pas du tout ce que c'est. La même chose se produisit en Chine avant l'introduction du bouddhisme. Le confucianisme et le taoïsme étaient flous et puérils. Mais sous la dynastie des Han postérieure, le bouddhisme fut introduit en Chine et lança un défi aux doctrines du pays. Avec le temps, le bouddhisme se répandit et certains moines bouddhistes choisirent de revenir aux croyances autochtones ou furent contraints de retourner à la vie profane parce qu'ils avaient enfreint les préceptes. Par leur intermédiaire, les principes bouddhiques furent usurpés par les écoles confucianistes et taoïstes. On lit dans le cinquième volume du Makashikan, « De nos jours, nombreux sont les moines démoniaques qui rompent leurs vœux pour retourner à la vie laïque. Craignant d'être punis pour leurs actes, ils adhèrent aux principes des taoïstes. Dans l'espoir d'acquérir gloire et profit, ils vendent exagérément les mérites de Lao Tzu et de Chuang Tzu. S'approprient des concepts bouddhiques pour les intégrer aux écrits taoïstes. Ils dénaturent ce qui est noble pour l'incorporer à ce qui est vulgaire. Ils détruisent ce qui est élevé et le ramènent vers ce qui est bas, s'efforçant de mettre les deux au même niveau. Dans le Kuketsu, Changlang commande ce passage ainsi. Tout en étant moine, ils détruisent les enseignements du bouddhisme. Certains renoncent à leurs vœux pour retourner à la vie laïque, comme le fit Wei Yuan Song. Voilà, bon, ben c'est déjà pas mal. Bon, la fin du passage, si vous voulez, c'est, pour être simple, hein, c'est le Nichiren pense qu'il vaut mieux éviter la confusion. Hein, c'est la confusion des gens. C'est-à-dire que si on est taoïste, c'est très bien. Si on est confucianiste, c'est très bien. Mais le fait de ce qu'on appellerait aujourd'hui le syncrétisme, qui est un mélange de tout, ou le New Age, si vous voulez, sans aucune tradition, c'est ça qui est dangereux. Parce que, bon, on peut tout faire. C'est vrai que, par exemple, on utilise, nous, par exemple, dans notre école de Shiatsu, on utilise des diapasons qui viennent de la tradition du Kototama, qui est une très vieille tradition, qui vient du vieux shintoïsme, hein, ce qu'on appelle le Koshinto. Mais il y a des gens qui prennent les diapasons et qui l'utilisent, oui, c'est vibratoire, puis on te fait du New Age, etc. S'il n'y a pas les racines, à ce moment-là, moi je le vois dans le domaine des médecines alternatives, mais on le voit partout. C'est-à-dire que, pour des raisons souvent d'intérêt et d'intérêt financier, on va piquer un truc à gauche, un truc à droite, on va mélanger le tout, on le met dans le shaker, et puis on te sort, et puis on te fait une nouvelle doctrine, une nouvelle médecine, etc. Donc voilà, c'est pas du tout, chez Nichiren, c'est pas qu'il s'attaque aux confucianistes ou aux taoïstes, c'est qu'il demande simplement que soient respectés les genres, les doctrines. Alors, ce qui est très intéressant dans tout ce passage, c'est que on parle d'Ichinen Sanzen, ce qui est vraiment la doctrine qui caractérise le bouddhisme de Nichiren. Donc, comme ça, on va pouvoir en parler profondément, on va avoir le temps. Donc, est-ce que vous l'avez tous, la fleur de Dharma? Tu l'as avec toi?
Non, mais...
Non, c'est pas celui-là.
Non,
je vous le prête, vous me le redonnerez après. C'est page 151.
Je l'ai pas pris.
Merci.
Tu l'as?
Non, je l'ai pas pris. Non. Quelle page?
151.
Mais avant, en fait, c'est parce que Nichiren, en fait, lui, au départ, il s'est mis à relire tous les écrits bouddhiques avant de se remettre à travailler ça.
Ah oui. C'est assez phénoménal la capacité de lecture des sutras qu'il avait, quoi. Il avait une capacité de concentration. Moi, j'étais à Kyoto, sur la montagne. Donc, il faut marcher 4 ou 5 km en forêt avant de trouver l'ermitage où il était quand il était jeune. Il avait 17-18 ans, je pense. Donc, c'est là où on le représente recouvert de neige, parce qu'il est en train d'étudier. Et la neige tombe et il fait
Ah, comme un chapeau.
une espèce de chapeau sur lui, et lui il continue à étudier, quoi. Donc c'est assez émouvant. Donc ce qui est bien, page 151, c'est que vous avez le passage qu'on récite tous les jours, hein, du chapitre 2 du Sutra du Lotus, hein, la fin juste avant la fin. Avant Shōjiso, hein, Nyoseso, Nyosesho, Nyosetai, est-ce que. J'ai. On va le reprendre dans le colonne. Shariyatsu, ça fait Shariputra. Shariyatsu. Voilà, Shariputra, l'ainsi venu, est capable d'une variété de distinctions pour prêcher habilement les enseignements. Donc, voilà, c'est ça. Shariyotsu, Nyorai no Shuju Hunbetsu. Vous voyez, ça commence là, donc c'est à peu près, c'est la quatrième ligne,
Ni
hein, du Kyobon. Vous voyez, Shariyotsu. Nyorai no shuju funbetsu gyoseshoho gonjin
Mmh.
yonan ukashushin shariyasu shoyo gonshi muryo
Oui, d'accord.
muhen nizo wo. Hein, voilà, vous l'avez comme ça.
Oui.
C'est important de reprendre le passage, de revenir toujours au Sutra du Lotus. Hein. L'ainsi venu est capable d'une variété de distinctions pour prêcher habilement les enseignements. Je ne sais pas si c'est la même traduction.
Ouais, ça doit pas être tout à fait, mais ça veut dire la même chose, oui. C'est vrai. On
Il
est
enseigne adroitement les multiples lois et par
pour
ses
prêcher.
paroles pleines de douceur, il comble de joie Ekkashushin. Ça, c'est magnifique comme
Ouais.
Ekkashushin, il comble de
Ouais,
joie
le cœur des foules.
le cœur de la multitude ou le cœur des foules. Hein.
Ouais. Non, mais c'est ça, hein, ça avait l'air mieux. Il enseigne adroitement, c'est la même chose, hein, pour prêcher habilement les enseignements, c'est ça.
Ouais. Gonjin Yunnan, ses paroles, Gonjin ses paroles pleines de douceur, hein. Ekkashushin, ça c'est très beau. Gonjin Yunnan Ekkashushin, hein. Par ses paroles pleines de douceur, il comble de joie le cœur des hommes ou le cœur des foules, hein. Son discours est empreint de douceur, il comble de joie le cœur des
Oui,
foules. Shariputra, pour s'en tenir à l'essentiel. En fait, voilà, là c'est un peu, c'est assez, hein, c'est stop, Shariputra. Hein, on s'arrête là. Ce dharma qui n'a jamais été révélé et qui est incommensurable et illimité, le Bouddha l'a entièrement réalisé. Ah oui, non, c'est ça, oui.
c'est assez,
C'est
tu vois.
assez, voilà, c'est ça.
C'est là.
Shariputra, c'est là, oui, c'est après. Inutile de parler davantage, pourquoi cela? Parce que ce que le Bouddha a réalisé est le dharma le plus difficile à comprendre et le plus rare. Seul un Bouddha avec un autre Bouddha peut élucider parfaitement l'aspect réel des dharmas. Ui Butsuyo Butsunai, hein? Ui Butsuyo Butsunai no Kujin Shoho Jiso. Hein? Seul un Bouddha comprend un Bouddha, en fait. Hein? Vous savez, Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de vicomte? C'est un peu ça. Là, c'est quand un Bouddha rencontre un autre Bouddha, qu'est-ce qu'il se raconte des histoires de Bouddha?
Bouddha.
Hein? Non, parce que là, dans la traduction, seul un Bouddha avec un autre Bouddha, c'est seul un Bouddha peut te comprendre un Bouddha, c'est
Ça veut
ça.
dire que nous aussi, peut-être aussi.
Oui, mais
Dans
si.
notre, si on,
Alors, oui,
ouais, ça veut
c'est
dire
très
aussi que
intéressant.
la compréhension, on peut l'avoir, c'est une porte ouverte vers nous, en fait.
Oui, mais on peut l'avoir par Ichinen sans Zen,
Ouais.
en fait. C'est par la suite, si tu veux. Parce que le Bouddha, en fait, il faut être au même niveau vibratoire. Alors, c'est très intéressant parce que dans le. Vous avez la Joconde de l'Asie. C'est le Bodhisattva au lotus bleu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une gravure qui est dans les grottes d'Ajanta. Isabelle nous a envoyé les grottes d'Ajanta et je crois que c'est dedans. Il y a le Bodhisattva au lotus bleu qui doit être Maitreya.
Maitreya.
Hein? Mais j'en suis pas sûr. Peut-être je me trompe. Je crois que j'ai la. Je dois avoir la photo dans un de mes livres. J'essaierai de vous le montrer. Mais il sourit. Donc c'est un sourire qui est le sourire de Maitreya est comparé au sourire de la Joconde. C'est pour ça que il est très célèbre. Il y a quelque chose de commun entre ces deux tableaux. Alors l'un est, j'étais le voir, j'étais plusieurs fois à Ajanta, donc je l'ai contemplé plusieurs fois. Et on ne peut pas avoir d'éclairage direct dessus, on ne peut pas le prendre en photo directement non plus. Hein, parce que c'est des pigments extrêmement.
Oui, qui sont abîmes mais qui sont sensibles à la lumière.
Voilà, exactement. Mais c'est absolument fabuleux. Alors là, en éclairage indirect. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc, il tient un lotus bleu et il sourit parce que d'ailleurs, c'est le sens du bouddhisme zen. Qui s'appelle Ishin Denshin, hein, de cœur à cœur. Ishin Denshin. C'est-à-dire que de mon cœur Kokoro Tokoko, de cœur à cœur Kokoro aussi, on peut dire Shin ou Denshin. Hein, Ishin Denshin, c'est vraiment la transmission vibratoire. Et il sourit parce que il vient de réaliser l'éveil. Maitreya sourit parce qu'il réalise l'éveil. Il est en communion parfaite avec Shakyamuni.
Et il a une fleur de lotus.
Et il tient une fleur de
Ah
lotus
non,
bleu.
ah,
Donc
d'accord.
c'est vraiment
Ah.
magnifique.
C'est dans les, c'est près de la mer, c'est ça?
Alors, c'est dans les grottes d'Ajanta qu'on trouve.
Ah, j'ai rien dit.
Je
Alors, je ne
pense.
sais pas si. J'ai un livre sur le bouddhisme. Voilà, peut-être là. Si vous avez de la chance, je l'ai là. C'est très célèbre, hein, comme. On dit qu'en fait, c'est pas du tout la transmission de cœur à cœur, mais comme ils sont en train d'utiliser les sons de l'éveil, donc les sons du Kototama, c'est des sons vibratoires qui permettent l'éveil, ils communiquent comme ça.
D'accord.
En fait, Shakyamuni et Maitreya sont en train de communiquer. Hein? Mais en tous les cas, ce Bodhisattva au lotus bleu, c'est une variante de Yui Butsuyo Butsunai no Kujin. Hein, de seul un Bouddha peut comprendre un autre Bouddha.
D'accord.
Voilà. Mais ça ouvre. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous dit Shakyamuni? Shakyamuni nous dit, vous ne pouvez pas comprendre par le langage, ou par le langage rationnel en tous les cas, peut-être par le pouvoir des sons. Mantrique peut-être, Hein? C'est au-delà des mots. Ui Busuyo Butsunai, ça veut dire c'est au-delà des mots, c'est une vibration, vous ne pouvez pas pénétrer dedans, en quelque sorte. Hein? Mais, tout de suite après, il dit ce qui signifie que les multiples dharmas, pour les multiples dharmas, ainsi est leur aspect, Nyoseso, Nyoseso, Nyosesho, Nyoseta, Nyoseliki, Nyosesa, Nyosein, Nyoseen, Nyoseka, Nyoseo, Nyoseon, Matsuku, Kyoto. Hein? Voilà. Et voilà, on rentre déjà dans le principe d'Ichinen Sanzen.
Et par exemple, quand il dit c'est ainsi est la potentialité, c'est ouais. Notre potentialité à nous de devenir Bouddha ou alors c'est quoi c'est quand, dans, ben, quand il dit Nyose.
Nyose Liki, Nyose, ça, oui. Potentialité, moi
Nyose Taille, quand il dit Nyose Sho, ce qui signifie pour le Nyose Sho, donc ainsi est leur entièreté. Nyose Taille, ainsi est la potentialité. Nyose Riki, c'est l'énergie.
Mais Nyose ça, c'est le. Nyose Riki, c'est l'énergie plutôt que la potentialité.
Oui, Nyose Taille, c'est. Nyose Taille,
c'est la corporité, ça c'est tout à fait juste. Nyose Riki, ouais, l'énergie, la force. L'équipe, c'est la force.
Ouais. Nyose chaud, c'est la. C'est quoi c'est...
Chaud, c'est la nature. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ça, on l'utilise en taoïsme. C'est le Xing en chinois. Xing, c'est vraiment le. C'est ce que nos, les fées qui sont passées au-dessus du berceau nous ont donné comme don. Ce sont nos dons, si tu veux. Hein? So, c'est vraiment, c'est très proche de Shiki, c'est vraiment la forme, l'apparence, la couleur, tu vois. Hein? So, Sho, Tai. So, Sho, Tai, c'est ce qui caractérise la personne. Donc là, on a 10. Hein? On a 10. So, alors Nyose, c'est intéressant, c'est tel que, hein. Mm-hmm. Ainsi, c'est bien, l'inciter, c'est bien, hein. Mais tel que, c'est So, Sho, Tai, Riki, Sa, In, En, Ka, Ho, Hon Matsuku Kyoto. Le dixième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10, c'est vraiment la cohérence du début à la fin. Donc ça, c'est ce qui relie tout. C'est-à-dire que voilà, Ichinen Sanzen va commencer par les 10 aspects ou les 10 incités, les 10 modalités, je ne sais pas comment on peut les appeler. Hein. L'incité, c'est bien. Là, je pense qu'on va les trouver comme modalité.
Nyoseen, Nyoseka, Kamin Nyoseko, c'est Nyoseka.
Nyoseka, Nyoseo, oui, pardon. Voilà. So, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est vraiment comment on va décrire une forme de vie. Hein? Déjà, voilà. Comme c'est tout un processus, on va dire, d'incarnation. Hein? La première, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas So, on n'a pas d'incarnation. Hein? C'est-à-dire que comment s'exprime la vie dans sa totalité. Donc, Ichinen Sanzen, hein? Donc, Ichi 1, Nen, ça veut dire penser, hein? Et ça c'est le principe d'unité, déjà, Ichi, Ichi, hein? C'est comme ça, hein? C'est le trait, c'est le 1. Le 1, c'est le principe de totalité, de... Le monde est un, le cosmos est un, hein, c'est le cosmos dans le sens, c'est l'univers organisé. Ce n'est plus le chaos. À partir du moment où tu as le 1. Donc on l'appelle le Tai Chi en chinois, le grand 1. Tai Chi. Hein. On rajoute devant Tai. Hein. Tai, grand. Tai Chi. Et qu'on va symboliser souvent avec le symbole du yin et du yang, comme ça. Ça, c'est le Tai Chi. Il faut bien voir que ça va être là. Bon, c'est intéressant ce que dit Nichiren sur les taoïstes qui piquent les trucs. Mais en fait, c'est les taoïstes qui ont été chercher le bouddhisme. Ça, on le sait aujourd'hui. Nichiren, il ne le savait pas forcément. Donc.
Le taoïsme est bien plus vieux que le bouddhisme.
Non, il est contemporain, à peu près.
Ah oui?
Ouais. Il est contemporain, Lao Tse, c'est un contemporain du Bouddha. Ils auraient pu se rencontrer. Comme Pythagore. T'as vraiment t'as Pythagore, Shakyamuni, enfin Gautama, et Lao Tse, ils apparaissent en même temps, à peu près à 20-30 ans. Donc c'est assez intéressant sur le plan que, au niveau de de l'évolution de la pensée sur la planète, t'as trois sages qui apparaissent en même temps. On dit que Pythagore a rencontré le Bouddha, en revanche. Enfin, il aurait eu, s'il n'a pas rencontré lui, il a pu rencontrer ses disciples. Donc, le principe d'unité, hein, et le principe, donc, Ichi, Nen, Nen, c'est de la pensée. C'est de la pensée concentrée. Hein. Donc, ça veut dire que le principe d'unité est lié à l'esprit, si vous voulez. Parce qu'on va, l'écrire, Nen. Hein. On va l'écrire, si je le retrouve. Voilà. On a un petit chapeau comme ça. Ça veut dire Ima. Bon, Ima, maintenant. Hein, c'est-à-dire, je suis capable de. Ça, c'est une seconde. Je suis le. Et ça, c'est le chapeau du ciel. Le trône, le dais du ciel, vous voyez. C'est-à-dire, je coiffe une seconde. Et dessous, vous avez. Kokoro, Shin, le cœur. C'est la capacité de mettre mon cœur dans une seconde, Ichi, Nen. Mais ça vient tout droit du concept taoïste de Ichin, qui est un seul cœur. Donc vous avez, si vous en voulez en savoir plus, vous avez le livre de Paul Manien qui s'appelle La vie et l'œuvre de Hui Si, qui était un disciple de Tendai. Chi Yi. Donc ça, c'est le principe d'unité, voyez, et Sanzen, c'est 3, donc le 1 et le 3 aussi. Toute vie, pour se manifester, a besoin du 3, comme le trépied, dont je ne tiens pas. Sanzen, 3000. Alors, il y a d'autres théorie, si vous voulez, quand vous lisez Lao Tse, c'est les 10 000. 10 000, c'est les 10 000 êtres. Hein? Mais ça revient un petit peu à pareil. Le principe d'unité, le principe de multiplicité. Le 1 qui va vers le 2, qui va vers le 3, hein? Et qui va vers le 10 000. Et les 3 000, si vous voulez, ou le 10 000 qui va retourner vers le 1. C'est-à-dire que le 1 va être poussé naturellement à se multiplier, et que ce qui est multiplié va retourner à l'unité. D'un côté, on a le principe de transcendance, ici. Et ici, on a le principe d'immanence. C'est-à-dire que dans chaque expression de la vie, il y a le désir de retour à l'unité et il y a, en hologramme, le cosmos entier. Et ça rejoint tout à fait les théories de champs vibratoires qu'on retrouve en physique quantique.
Donc la transcendance, c'est
Ichi. C'est Ichi, c'est-à-dire que si tu veux, toute forme de vie est l'expression de l'unité. Dans les deux, on retrouve un peu le même concept, puisqu'on va retrouver l'hologramme dans les deux côtés.
Et donc, sans zen, c'est l'immanence.
C'est le principe d'immanence, puisque c'est, c'est, si tu veux, ce qui est
la globalité.
Un aspect de la vie. Mais l'aspect de la vie, et nous, si vous voulez, actuellement, on n'est plus à l'écoute du principe d'unité. On s'est tellement multiplié, divisé, etc., qu'on s'en est éclaté, on est devenu schizophrène, et on n'est plus capable d'avoir, si vous voulez, c'est ça, c'est pour ça que la fontanelle est tellement fermée qu'on n'est plus en connexion. Les oreilles n'entendent plus, d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que les oreilles, c'est vraiment les antennes du ciel. Maintenant, les gens mettent des écouteurs sur leurs oreilles. Et les jeunes deviennent sourds. Mais être sourd, c'est quoi? C'est se fermer aux informations célestes. C'est ça qui est embêtant. C'est pas le fait d'entendre. D'ailleurs, c'est... quand on dit entendre, entendre, c'est comprendre.
Oui, c'est vrai que même pour percevoir, en fait, et pas avoir des vues erronées, ou ben, vaut mieux effectivement avoir le bon son, la bonne vue,
c'est ça.
Les cinq sens.
Coup de coup, c'est la purification des cinq sens. Ouais. C'est exactement ça. Donc, et c'est intéressant parce que moi, je travaille beaucoup, enfin, je travaille avec le toucher, mais aussi avec le son et la lumière en shiatsu, mais c'est ce sens, c'est cette direction-là. Ouais. Donc, voilà. Ichinen, c'est-à-dire le processus, Ichinen, nen, c'est-à-dire qu'il y a de l'esprit, il y a de l'unité, que par le nen, justement, par le shin, il y a non-dualité déjà entre le corps et l'esprit, c'est très important, c'est ce principe-là aussi, Ichinen, et ensuite, le processus d'incarnation, avec les trois premiers. Là, on va retrouver le 3, le chiffre 3 symbolique. Soshotai, c'est-à-dire qu'il faut de la forme, de la chair, de la couleur, pour qu'il y ait de la vie. Chaud, il faut qu'il y ait des... de la nature, non.
La chair sans œufs, oui.
Oui, c'est ça. Sans œufs, oui, pardon. Nature, c'est-à-dire les capacités. Les capacités intellectuelles, capacités... font des dons, vous voyez, on dirait les dons. Et trois, il faut qu'il y ait... alors, de la corporité... on pourrait dire que là, chaud a un aspect beaucoup plus lié au monde de la pensée et de l'esprit, alors que là, on est plus dans la matière ou dans le corps, et que la corporité, c'est vraiment l'incarnation du corps et de l'esprit. Alors, ça, c'est ce qui, les trois premiers, caractérisent l'aspect de vie. Ensuite, pour que ça fonctionne, bah, il faut de l'essence, il faut de la force. Hein? Il faut que ça bouge. Bon, c'est pas le tout de mettre de l'essence dans le réservoir, mais il faut mettre le... Il faut démarrer, il faut bouger, il faut aller quelque part. Dans une histoire, dans un processus causal, c'est-à-dire que d'où on vient, où on va, etc. In, les causes. N, on va avoir la relation, le lien. K, c'est le fruit ou l'effet. Pro, la rétribution. Donc là, si vous voulez, on dit aussi cause interne, cause externe. Effet interne et effet externe. Hein, on peut dire les quatre. Là, vous avez, dans ces quatre-là, vous avez le processus causal. Hein. Et donc aussi, là, hop. Oui, cause et condition aussi, hein, in, end, lien, condition. Hein.
Tu disais cause interne, cause externe.
Oui, alors c'est in, cause interne, n, cause externe, k, effet interne. Effet externe. C'est une autre façon de comprendre le processus causal. Et Han Matsuku Kyoto, hein, c'est. Il le dit bien.
Oui, dans son. C'est en fait le résultat.
Hein, c'est ça.
C'est, il dit que c'est la globalité de l'origine et de la fin.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est cette idée de globalité. Oui, c'est ça, c'est l'hologramme, on retrouve. Hein. C'est-à-dire tout est en tout et réciproquement, etc. Ça va?
Et ça, donc ça s'applique à chaque, je veux dire, à chaque instant de notre vie.
Voilà, voilà. On va, par Sanzen, on va pouvoir décortiquer la façon dont on fonctionne. Parce que dans la méditation, il ne faut pas oublier, chez Tendai, c'est celui qui a inventé le Zen hein, aussi. Hein. Donc le rapport à la méditation est très important dans le bouddhisme de Tendai. Et Ichinen Sanzen, tel qu'il est, il existe à l'époque de Tendai, c'est un moyen qu'on appelle aussi Makashikan. Mm-hmm. Makashikan en chinois, Mo Che Kong. Hein, c'est la capacité de se mettre en méditation. Maka, c'est chi. Non, le chi kong, c'est ça. Chi kan, chi, ça veut dire arrêter. Maka, ça veut dire grand traité. Mais chi kan. Arrêter et se recueillir, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est se mettre un temps d'arrêt. Hein. Le Bouddha, quand il se met en méditation, d'abord, c'est, bon, on arrête l'agitation du monde et moi, je contemple ce qui se passe. Je me mets à l'écoute de l'agitation du monde. Vous voyez, c'est ça, le premier acte. Dire stop. Hein? Deuxième, kan. C'est ce qu'on appelle, ou kwan, hein, ou... Alors là, on va le dire. Shamatha, on va l'appeler en sanskrit shamatha. Et kwan, ça va se dire ce qui est la vision pénétrante, ou la concentration, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le vipassana. Comme deux méthodes de méditation. Shamatha, vipassana. Donc quand on fait une méditation sur Ichinen Sanzen, c'est issu de Shamatha Vipassana. Kan ou Kwan hein, en chinois. Shi Kan, Maka Shi Kan.
Et Maka, c'est le grand livre, tu disais.
Oui, c'est le grand. Le grand ouvrage. Shamatha Vipassana, oui. Ou Samatha, vraiment,
c'est entre les deux. Ça correspond à quoi, Shamatha Vipassana? Ça correspond à...
C'est les termes sanskrits.
C'est les termes sanskrits. Shi, c'est Shamatha. Kan, c'est Vipassana.
Donc c'est le grand ouvrage sur la méditation.
Voilà, le grand ouvrage sur Shikan. Hein? Voilà, ça c'est très important ce que dit Chi, donc qu'on appelle souvent Tendai, toujours dans cette... comme c'est lui l'inventeur de Ichinen Sanzen. Il faut d'abord comprendre le vide de toute chose pour ensuite comprendre la potentialité cachée dans le vide. Hein? Le tout et ses parties ne font qu'un. Le tout et ses parties ne font qu'un. Chaque dharma contenant de façon holographique l'ensemble de tous les autres. Une pensée égale 3000 dharmas. Pourquoi 3000 dharmas si l'on prend les 10 conditions d'existence décrites ici-dessus, hein? On y reviendra, hein? Ou les 10 mondes,
oui,
les 10 états mondes. Dont chacune contient les mêmes 10 mondes, qui sont chacun régis par les 10 incités, hein, de la forme, nature, corporité, force, action, cause, condition, fruit, rétribution, cohérence. On obtient 1000 mondes qui existent dans chacune des 3 sphères de différenciation, les 5 agrégats qui constituent la personne, son environnement naturel et son environnement social. Ce qui donne bien 3000 dharmas. Une pensée droite, 3000 dharmas, décrit la manifestation instantanée de tous les phénomènes en une pensée.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc chaque état, on sait qu'il y a tous les états, et dans les états, il y a en fait les 10.
C'est bon, comme Philippe pense.
Les 10 incités. Mais alors les 3, par contre, pourquoi on arrive à 1000 et après, pourquoi c'est multiplié par 3?
Parce que les 3 sphères de différenciation,
ouais.
Hein, donc les 5 agrégats,
ouais.
La nature, la différenciation de la nature et la différenciation du monde social.
D'accord.
Hein, ce qui fait 3000.
Ah ouais.
C'est-à-dire que la personne caractérisée par les 5 agrégats, c'est les 5 agrégats, ça, bon, ça, on va voir tout ça. Ça prend beaucoup de temps, hein, on ne le fera pas aujourd'hui. Là, on a déjà un petit peu ébauché le principe d'Ichinen Sanzen. Chaque personne constituée par 5 agrégats va s'épanouir dans un environnement naturel. On voit bien qu'avec l'écologie, on touche ce principe, et dans un environnement social. Hein. Vous n'avez pas été obligé de voter aujourd'hui, voilà.
Mmh. D'accord.
Ça, c'est important. Hein. Donc, shamatha vipassana, est-ce qu'il y avait une définition là? Il me semble. Voilà. Namo Myoho Rengekyo hein, permet de réaliser ultimement l'expérience d'une pensée 3000 dharma. La pratique de Shikwan, Shikan. Mm-hmm. Chaque récitation du titre est une nouvelle pensée qui contient 3000 dharma, la potentialité de la vacuité. On revient à la potentialité de la vacuité qui était le préalable de tout chez Tienta et hein, chez Chi. Hein.
C'est-à-dire, on revient à l'un.
À la vacuité, au vide, parce que le 1, c'est le vide aussi. Hein. C'est l'expression subite de l'éveil, une manifestation de la bodhicitta, c'est-à-dire la nature de Bouddha. Donc voilà, hein. C'est ça la pratique de Qigong. Hein. Shamatha Vipassana. Il y a la capacité à la fois de recueillement et de concentration, on va dire. Hein. Mm-hmm. Bon, est-ce que ça va pour vous ou... Et puis on verra les 10 mondes d'état la prochaine fois.
Oui, ouais, les 10 mondes d'état, puis les 3.
Et puis les 3 sphères de différenciation.
Ouais, ça, c'est important. Ouais. Ça, j'ai pas. Autant je comprends bien jusqu'à 1000, je sais que
oui, parce
jusqu'à
que là, 1000, on a dit
jusqu'à 3000, je sais pas.
Les 10 incités, mm-hmm. hein, ou les 10 modalités d'expression de vie. Mm-hmm. C'est 10 fois 10.
Oui, voilà, ça je comprends. Ça fait 100. Plus les... Donc, dedans, on a nos 10.
Plus les 10 mondes d'état qui sont à leur tour.
Voilà. Hein. Donc, ça.
Donc, oui, ça fait.
Il
voilà.
Se manifeste. Il se manifeste quelque part.
Mais les 3, après, ça, j'ai pas. Je sais que c'est là, mais l'explication,
c'est
je pourrais
simplement,
pas.
Simplement, tu vas avoir un vecteur. Tu sais, si tu fais un vecteur, ça va être très simple pour. Le vecteur des 5 agrégats, c'est-à-dire c'est la personne, ici, qui s'exprime dans un environnement naturel, et puis ici on va dire dans un environnement social. Et tu vas, quand tu es à un instant T, tu as un point ici, un point là, tu vois, dans... à tel âge ou à tel niveau, tu vois. Donc, tu vas avoir un point, tu vois, qui va se profiler dans ces 3 plans. Enfin, bon, je le fais peut-être pas très bien, mais l'idée, c'est ça. Hein, c'est cette vectorisation de la vie qui te permet de saisir la personne dans toute sa potentialité. Donc, ça, c'est la personne. Là, il y a la nature. Là, il y a la société. C'est-à-dire... tu as un père, une mère, une famille, un lieu de travail, et tout ça, c'est ton envie, tes amis. Donc tout ça va contribuer à faire ce que tu es. J'imbibe l'éponge de térébenthine, ça va, ça arrive à passer.
C'est mal.
Mais il faut voir d'où ça vient. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est taoïsme et bouddhisme, surtout taoïsme et bouddhisme, confucianisme non, parce que c'est de la morale. Le confucianisme, c'est assez limité. Mais le taoïsme part de Ishin, Donc de vraiment un seul cœur. Donc ça c'est vraiment développé dans la vie de Hui Tsui. Hui l'enseignement donné à Chi, voilà, il y a tout justement sur l'enseignement de qui est donné.
Et ça se trouve encore ce livre-là? Non.
Je sais pas. Alors là, Chi. Donc voilà. Il y a un autre là dans le Kaimokusho, il l'aborde, mais enfin bon, c'est une bonne façon de pour nous de le pénétrer cette fois-ci.